Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, RMC Story. Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel sont sur le plateau aujourd'hui. Vous aussi, d'ailleurs, vous pouvez l'être grâce à notre numéro de téléphone, le 3216, pour réagir à notre prochain débat et répondre à cette question. Pape Ndiaye qui prône une éducation sexuelle renforcée à l'école. D'accord ou pas d'accord avec lui? 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous. Avec Amélie Rosic qui tentera d'aider Alexandra, elle est assistante maternelle et elle n'est plus payée par les parents de l'enfant qu'elle garde, évidemment. Elle est en énorme difficulté. Et puis, on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Rémi.
Avec la multiplication des fermetures de guichets dans les gares SNCF et puis Kylian Mbappé taclé par le patron des restaurants KFC.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi au rapport du jour. C'est celui de l'Inspection Générale de l'Éducation qui révèle que plus de 85% des élèves en France n'ont pas bénéficié des 3 séances d'éducation sexuelle à l'école prévues par la loi. Alors, pour quelles raisons, Rémi? Et puis, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, lui, veut renforcer ses cours.
C'est ça, exactement. Alors, pour quelles raisons? Manque de volonté, manque de temps. Le rapport ne donne pas de définition claire de cet échec, hein, parce qu'il faut appeler un chat par son nom.
J'ai un chat, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Le rapport, il est intitulé « Éducation à la sexualité en milieu scolaire ». Il a été confié à 2 inspectrices générales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend qu'il a été remis en juillet 2021, j'ai pas fait d'erreur, hein, juillet 2021, au ministre de l'Éducation de l'époque, il s'appelait Jean-Michel Blanquer.
Ah oui.
Mais, bizarrement, ce rapport n'a jamais été dévoilé et rendu public. Pour cause, selon lui, moins de 15% des élèves bénéficient des 3 séances d'éducation à la sexualité durant leur année scolaire en école et au lycée, alors que ces 3 séances, tu l'as évoqué, sont prévues par la loi et pas de hier, hein, depuis 2001. L'éducation à la sexualité est obligatoire dans les écoles, les collèges et les lycées. Mais ça, visiblement, ça ne fonctionne donc pas. Pour y remédier, les auteurs du texte préconisent notamment d'introduire les notions d'éducation à la sexualité directement dans les programmes officiels de certaines disciplines. Donc ça serait inscrit dans le marbre, hein. Il faudrait absolument l'étudier. Et puis aussi d'inscrire ces 3 séances annuelles dédiées dans l'emploi du temps des écoles, collèges et lycées, et de prévoir également une information systématique des parents par les équipes de direction lors de la rentrée scolaire. C'est une question en tout cas que le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a affirmé vouloir remettre sur la table.
Pour ou contre le renforcement de l'éducation sexuelle à l'école? C'est la question qu'on vous pose et bien sûr on attend vos avis, notamment sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Et c'est la question que je vous pose, Thierry.
Oui, oui et oui. On observe aujourd'hui des carences considérables sur la sexualité auprès des jeunes. On le sait que les parents sont pas les mieux placés pour aborder ce type de questions avec leurs propres enfants. L'école.
Bah, tu peux quand même dire 2-3 trucs.
Bien sûr, on peut dire 2-3 trucs. Mais l'intérêt de l'école, justement, c'est qu'elle a un rôle important, c'est qu'il n'y a pas d'affect sur ces questions-là. Et on peut aborder des questions qui peuvent être délicates dans certaines familles, ce que je peux comprendre. Donc, justement, l'école a un rôle important. Ça permettrait d'éviter une multitude ou de réduire une multitude de problèmes. Les maladies sexuellement transmissibles, la carence sur de connaissances sur ces questions est abyssale. Les grossesses non désirées, les questions de contraception ici. Mais plus largement aussi, sur les questions d'acceptation de la sexualité des autres, sur les questions de consentement, je pense que c'est inadmissible. Et alors, moi, je trouve ça très symptomatique. Comme le disait Rémi, il y a un texte, il y a une loi, elle n'est pas appliquée. C'est comme les enseignes lumineuses, ça fait des années qu'on sait que c'est interdit la nuit, il y en a encore. Là, c'est obligatoire, il n'y en a pas.
Parce que malheureusement, tu dois avoir des profs qui sont mal à l'aise avec ça, c'est ça? Bah, c'est un problème, mais c'est comme ça.
Alors, il faut peut-être de la pédagogie, il faut peut-être former des gens, il faut peut-être des gens ad hoc ou des gens de l'extérieur qui viennent, mais en tout cas, il faut absolument améliorer cet enseignement-là qui est indispensable. Ça évite une multe. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure. C'est après qu'on le paye. C'est après que ça coûte cher.
Fatima Benomar, c'est vraiment à l'école d'éduquer nos enfants à la sexualité?
C'est un rôle, quand on a des écoles avec le frontant liberté, égalité, fraternité, évidemment que la question de l'égalité, notamment de l'égalité filles-garçons, doit être au programme. Nous, on le disait bien avant ce rapport de l'inspection générale qu'il y avait un souci, que les personnes qui venaient dans nos associations disaient, d'ailleurs le collectif Nous Toutes avait fait une enquête là-dessus, qu'elles n'avaient jamais reçu ces cours. Donc je trouve pas ça normal déjà qu'on avait une vraie enquête officielle qui avait été faite et que ça nous a été caché. Du coup, on allait un peu au front pour dénoncer ça toute seule. Nous, on appelle ça l'éducation complète à la sexualité et contre le sexisme. Et justement, ce qu'on déplore, c'est que malheureusement, les quelques fois où c'est tenu, ça se réduit effectivement au danger de la sexualité. Donc, la question des grossesses précoces, des IST, des préservatifs, très bien, il faut en parler. Mais il faut aussi parler de manière positive pour ne pas stigmatiser la sexualité des jeunes. Les faire parler, c'est-à-dire les faire parler de tous les nouveaux phénomènes, par exemple le respect du consentement, les questions de revenge porn. Donc, le revenge porn, c'est quand on sort des vidéos ou des textos intimes à caractère sexuel d'une ex pour se venger du fait, par exemple, qu'il est parti. Il faut savoir, il y a tout un tas de choses. Par exemple, le harcèlement de rue, 82% des harcèlements de rue ont lieu avant 17 ans. Et même dedans, il y a une grande part, plus de la moitié, avant l'âge de 15 ans. Et voilà, et les violences dans les jeunes couples, ça existe. Les rapports sexuels imposés dans les jeunes couples. Donc les associations, elles ont déjà fait des recherches, des données. Par exemple, il y a une super association qui s'appelle En Avant Toutes. Elle se disait pourquoi les mineurs sont les plus concernés par les violences sexuelles dans le couple et les plus violentes, mais elles ne viennent pas dans les associations. Donc elles avaient fait un chat et c'est là que les filles venaient leur parler d'ailleurs, entre autres, de violences dans la famille, par exemple dans l'inceste.
Mais les filles ne parleront jamais ça en classe.
Bah oui. Et ben justement, je pense que quand ce sont des personnes, des professionnels qui interviennent, qui sont habitués et qui trouvent la moyen de poser le débat de manière respectueuse, de manière intelligente, afin, et justement de faire du repérage, c'est-à-dire que quand il y a un lien de confiance, après une fille peut peut-être venir après les voir, se tourner vers cette association, voilà.
Et après, donc, le c'est problème, ça c'est que ça ricane beaucoup dans ses cours. C'est-à-dire qu'on fait presque faire des cours pour filles et des cours pour garçons.
On a tous
parce que t'as des
ça dépend du cours. Si ça se réduit à la reproduction et aux IST, oui, ça va ricaner. Si on fait asseoir comme on fait les élèves en rond et qu'on parle vraiment du respect, du consentement, de se dire qu'il n'y a pas d'exemple de
l'éducation sexuelle.
C'est pour ça qu'on appelle ça l'éducation complète à la sexuelle et contre le sexisme, qu'il n'y a pas, par exemple, de minimum syndical dû au sein du couple, etc. Et c'est ça, en fait, de quoi on parle dans ces cours.
Fred Hermel.
Bien sûr, c'est essentiel. Attention, les grossesses non désirées, c'est 20 000 mineurs en France par an. C'est pas rien. Hein. Donc, on doit encore éduquer la reproduction. Oui, la reproduction, la contraception, ça reste un sujet très important. En plus, il y a un problème que nous n'avons pas connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, les très jeunes, avec les réseaux sociaux, ont un accès à la pornographie très rapide. Donc, ils ont une vision des relations sexuelles qui sont souvent très violentes.
Mais si tu commences à parler du porno à l'école, alors, tu vas voir, là, ça va ricaner de tous les
totalement
côtés.
Déformé, en plus.
Ah, mais non,
totalement
mais c'est déformé. Vraiment, c'est un accès. Je veux dire, les gens de mon âge et Thierry Gros, nous, on avait le catalogue de la Redoute et ça n'allait pas très loin. Oui. Donc, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, il y a une vision de la relation sexuelle qui est totalement déformée par la vision de la pornographie qui est
partout. Et misogyne.
Qui est très violente, oui.
Qui est partout et violente. Donc, c'est important pour corriger cette vision-là. Et j'insiste, la contraception reste une question majeure dans notre pays. 20 000 grossesses non désirées en France chaque année chez des mineurs.
On est avec Linda qui nous appelle de Paris et Linda qui est maman de deux filles de 17 ans. Bonjour Linda.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et Linda, vous voulez réagir sur ce sujet. Il faut renforcer l'éducation sexuelle à l'école pour vous?
Moi, je suis absolument contre. Je pense qu'il faut renforcer uniquement la prévention, mais l'éducation sexuelle, je pense qu'elle est très personnelle. Elle appartient à votre enfant et surtout aussi à ses parents qui doivent savoir l'enseigner, effectivement. Parce que moi, j'ai vu le constat lorsqu'elles ont eu des cours d'éducation sexuelle. Premièrement, l'enfant n'ose même pas, même autour d'une table ronde, même s'il est bien dans sa classe ou quoi que ce soit, il n'ose pas forcément poser la question adéquate parce que il y a le ricanement du voisin, de toute la classe ou quoi que ce soit. Il y a un gros problème au niveau du langage en lui-même parce que les termes ne sont pas les mêmes. Donc il n'ose pas demander c'est quoi ça ou quoi que ce soit de peur que le petit copain ou la petite copine ne se moque, tiens, t'étais pas au courant ni quoi que ce soit. Donc je pense que la prévention, elle est très importante et l'enfant doit être à l'aise avec ses parents de telle façon que lorsque le moment est voulu, lorsque le moment arrive, il puisse poser les questions celle qui veut la poser, parce que je pense que son corps, effectivement, lui appartient vraiment. Moi, je suis vraiment ouverte à tout.
Ouais, mais Linda, regardez, vous êtes manifestement une super maman, vous êtes ouverte à tout et vous pouvez parler avec vos filles, mais vous savez qu'il y a beaucoup de familles où c'est pas possible.
Donc, en fait, il y a des familles qui vont mettre leur enfant dehors parce qu'ils savent, par exemple, qu'il est homosexuel. Enfin, on est très inégaux aux parents qu'on a.
Tout le monde n'est pas tolérant comme vous, malheureusement, Linda.
Oui, mais effectivement, je constate quand même que ces enfants qui sont issus d'une famille qui reste effectivement, entre guillemets, très coincée dans ce genre de discussion, n'auront pas forcément aussi en classe les mots qu'il faut parce qu'ils restent encore très, très frustrés.
Mais c'est pas eux d'avoir les mots qu'il faut, c'est aux professionnels.
Je voulais poser une question justement à Linda par rapport à ça. Oui. Simplement, oui, mais les professionnels qui interviennent, les profs sont formés à répondre aux questions. Que ce soit, parce que ce sont quasiment toujours les mêmes questions. Ouais. Donc, ce n'est pas aux enfants de poser des questions. Ce sont les gens, et c'est pour ça qu'il faut former les profs, qui interviennent, qui vont répondre aux doutes et aux questions que parlent les enfants, sans même qu'ils aient à les poser.
Ils répondent aux questions des enfants. Mais est-ce que l'enfant.
Non, mais sans que la question soit posée, Linda. Parce qu'ils savent que c'est toujours les mêmes choses. Donc, leur cours est justement pour répondre aux questions que pourraient se poser les enfants. Il faut faire confiance, justement,
à l'éducation. Et juste, Papendia, il a bien dit, ça va être l'éducation à la sexualité et contre, par exemple, les discriminations, il l'a bien dit. Donc, ce n'est pas que des questions comment on se reproduit, comment on a des enfants, etc. C'est vraiment
beaucoup plus large.
Pour avoir assisté à certains de ces cours, les quelques fois où ils sont tenus, c'est vraiment créer tout un environnement, en fait, où on peut parler de choses dont on ne peut pas parler ailleurs, et malheureusement, même pas entre parents, et même parfois, même pas entre amis.
Linda, vous parlez de tout avec vos filles ?
Oui, moi je parle de tout avec elle, mais en temps voulu, parce qu'il y a des questions, par exemple, que ma fille ne m'a pas posées l'année dernière et qu'elle me posera cette année, parce que tout dépend s'il y a le petit copain, s'il y a une copine ou quoi que ce soit, ça aussi c'est très important. Et je trouve que les enfants sont plus ouverts à vous poser la question voulue, en temps voulu, à partir du moment où ils vivent ce moment, justement, où ils ont envie d'un rapport ou quoi que ce soit. Mais quand il n'est pas là, vous savez, ils sont plutôt, c'est bien le cours d'éducation sexuelle, mais souvent, moi, j'ai vu, ils reviennent à la maison, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu la petite copine, ce qu'elle a posé comme question, c'était pas trop rigolo parce que l'autre s'est moqué d'elle ou quoi que ce soit. Mais comme me disent mes filles, moi, maman, on te posera la question quand le temps sera voulu. Elles ont 17 ans, parce que pour l'instant, c'est l'université, il y a d'autres priorités, et c'est vrai que leur corps leur appartient. Je leur dis, vous me poserez la question en temps voulu, et puis en temps voulu, il ne faut pas oublier aussi que la question ne sera pas forcément comme notre copine qui aura le même âge. Elle aura un questionnement qui sera complètement différent par rapport à son compagnon.
En tout cas, ils s'intéressent à la sexualité bien avant d'être actifs sexuellement, ça vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être actif sexuellement pour s'intéresser aux questions de...
Tous les mômes, merci en tout cas Linda d'avoir appelé au 32-16.
La prévention est vraiment nécessaire, la prévention pour éviter tout accident, et le restant leur appartient avec les parents, et c'est vrai qu'il y a des parents qui ne sont pas ouverts à cela.
Mais
je pense que l'enfant saura peut-être venir aussi vers un autre parent ou vers un autre parent d'une amie ou d'un ami.
Voilà, c'est un peu compliqué, mais merci beaucoup Linda en tout cas d'avoir été avec nous, et c'est vrai que tous les enfants n'ont pas la même maturité, et non pas, il y a des enfants, excusez-moi, mais des enfants de 15 ans, ils savent même pas de quoi on parle. Hein. Ils sont dans leurs jeux vidéo, dans leurs trucs. Et tout d'un coup, tu vas leur parler de ça. Et ils n'ont pas forcément envie qu'on leur parle de ça à ce moment-là.
D'accord, mais Linda.
C'est quand même très intime, excusez-moi.
Sauf Linda a une vision un peu angélique des choses. Pardon.
Non, mais sauf qu'il y a une réalité, c'est que. Frédéric, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'ils sont confrontés de plein fouet. Ils prennent en pleine tête la pornographie.
Exactement.
Et leur première approche de la sexualité se fait au travers de la pornographie. Et ça, c'est quand même
Et ça crée des frustrations, et ça crée des idées préconçues qui n'ont rien à voir avec une sublimation de la performance qui est un drame pour les gamins, surtout pour les garçons.
On parle de pornographie, on a parlé de problèmes de performance. Enfin, la première question, c'est la question de la misogynie, de l'érotisation, de l'humiliation sexuelle des femmes, etc. Oui. Enfin, ça, c'est quand même... une part importante de la problématique de la pornographie.
Notre invité sur ce débat, c'est Gaël Le Bouec. Il est ex-député La République En Marche, impliqué sur les questions d'éducation sexuelle à l'école et auteur d'un rapport sur les stéréotypes de genre. Merci Gaël Le Bouec d'être avec nous.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Bonjour.
Gaël Le Bouec, c'est important de renforcer les cours d'éducation sexuelle à l'école ?
non seulement c'est important, mais un, c'est légal, c'est la loi, et quelqu'un a parlé tout à l'heure en intervention, déjà de respecter la loi, on l'a bien vu au travers de ce rapport, qui est évidemment disponible en ligne, et je vous remercie de le mettre en valeur, il a été coécrit avec Karine Lebon, hein, députée communiste de dernière mandature, il y a toutes les infos, et c'est une belle synthèse votre débat de ce que vous faites, c'est-à-dire non seulement c'est indispensable, c'est important, mais un, c'est la loi, et évidemment ce cours, Pape Ndiaye le ministre, c'est d'aller beaucoup plus loin, et vous rebondissez sur finalement trois des recommandations du rapport, la 7, la 10 et la 21, la 21 qui est la plus importante, faire de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire un enseignement obligatoire spécifique dispensé dès la maternelle. Celui-ci ne devrait pas se borner uniquement à une approche physiologique et médicale, il devra s'attacher à mettre l'accent sur le respect de l'autre, sur la notion du consentement et ainsi que sur la prévention à la pornographie. On est vraiment dans le sujet, il faut un, respecter la loi et que à chaque fois au collège, ce qui est la demande, ce soit fait dans toutes les classes régulièrement et aller beaucoup plus loin. Parce que la question du consentement, à 6 ans, comme dans beaucoup de pays nordiques, à 6 ans, un enfant doit savoir ce que c'est le consentement. Est-ce que je peux tolérer que quelqu'un touche mon corps? De quelle façon? Oui, quand, comment? Et ça, c'est hyper important. Et on l'a vu, et dans les pays qui ont mis ça en place, ça a énormément baissé les violences à l'adolescence.
Gaëlle Le Bouët, qui doit faire ses cours? Parce que vous avez aussi les croyances des uns et des autres. Il y a des profs qui ne se sentent pas forcément une appétence pour ce genre de cours. Comment on fait? Est-ce que ce sont des intervenants extérieurs ou est-ce que ce sont des profs comme ça qu'on va former pendant 4 heures pour ce genre de cours?
Moi, avant tout, si un prof il est pas à l'aise, il faut surtout pas le faire, parce que ce sera moins bien que tout. Donc qu'il soit formé, hein, c'est une autre des recommandations que l'ensemble des enseignants, y compris dans le cursus initial et continu, c'est la recommandation 11, soit formé et soit à l'aise à ces questions-là, puisque j'ai entendu dans le débat et parler de oui, mais ça va ricaner, ainsi de suite. Regardez, il y a des pays au Danemark, au Norvège, ils ont passé ce cap-là. Et ça
bah oui, mais ils ont passé tous les caps par rapport à nous. Enfin, nous, on a l'impression qu'on est quand même très à la traîne en matière d'enseignement et d'éducation.
Oui, mais moi, j'ai pas de souci. Il y a beaucoup de profs, la majorité des profs, ils en ont envie et on va y arriver. Si on dit on n'y arrivera pas, on s'arrête tout de suite. Moi, je crois vraiment, et il y a plein de profs qui sont en demande justement de cette formation-là, de ces outils, de faire intervenir des intervenants extérieurs, pourquoi pas, qui vont justement leur apporter des compétences et les mettre encore plus à l'aise. Il y a des gens, il y a des spécialistes, que ces spécialistes viennent aider les profs, viennent les former en initial et en continu, et on va y arriver.
Gaëlle Le Bouët, restez avec nous. On a pas mal d'auditeurs qui appellent sur ce sujet. On a David, tiens, qui nous appelle de hier dans l'Essonne. Bonjour David.
Oui, bonjour mademoiselle Estelle.
Ah, bonjour David. Alors vous êtes plutôt pour le renforcement de l'éducation sexuelle à l'école?
Tout à fait. Alors moi, je suis pour. Contrairement à monsieur l'ex-député que je viens d'entendre, je pense qu'il faudrait par contre une personne extérieure au collège. Enfin là, je parle du collège parce que mon fils est au collège, il vient de rentrer en 6e.
Donc il est tout jeune, il a 11 ans, c'est ça, 10-11 ans?
Tout à fait, il a 11 ans. Je pense vraiment qu'il faudrait quelqu'un d'extérieur de manière à ce que on puisse éviter justement les petits ricanements que les élèves puissent écouter de manière un peu plus correcte
et attentive. Et
attentive, tout à fait. Ensuite, oui, je pense que c'est important parce que je surveille le téléphone de mon fils.
D'accord.
C'est que pour certaines personnes, c'est pas très bien, mais bon, il a 11 ans, il a un portable. Je surveille quand même. Quand il est couché ou quoi, c'est moi qui recherche son téléphone. C'est pas très bien.
Bah si, c'est bien. Non, c'est tout le contraire.
Ben, en même temps, si son fils reçoit des SMS, par exemple, d'une jeune fille, non, je n'aimerais pas savoir.
Si le site des sites pornographiques ou des sites non autorisés, c'est bien.
Et puis les dangers de pédophile et tout ça, donc c'est très bien de faire ça.
Alors, allez-y, David.
Ceci étant, il ne reçoit pas encore de trucs pornographiques. Mais il nous avait présenté à la rentrée sa nouvelle petite copine, à sa mère et moi. Donc on était quelque part heureux parce que...
Oui, donc s'ils ont des échanges intimes, excuse-moi.
Voilà. Mais on avait appris aussi, enfin j'ai appris en lisant ces trucs qu'il en avait déjà eu une avant.
Bon, après, mais attendez, c'est quoi petite copine à 11 ans? Oui, c'est
mais
ça.
Bisous. Voilà. Mais je préfère anticiper que me retrouver un petit peu au-dos du mur et voir que...
Oui, c'est arrivé sans que vous le sachiez. Donc vous misez sur l'école finalement pour faire cette éducation.
Alors moi, j'essaie de le faire.
D'accord.
Ma mère aussi, depuis qu'il est tout petit. Parce que déjà, à maternelle, il y avait 4 copines.
Oui, mais ça c'est normal. Enfin oui, c'est normal, c'est des petits amoureux d'école, c'est tout chouchou.
On a recadré la chose en disant c'est une copine, c'est pas 4. Vous voyez, on a essayé dès le départ d'essayer de lui donner une certaine
des bases et des règles.
Voilà.
Donc c'est bien que l'école fasse le reste du travail, c'est ce que vous dites, David. Et effectivement, il faut peut-être commencer aussi plus tôt. Merci David, en tout cas, d'avoir été avec nous. Gaëlle Le Boeck, on commence à quel âge cette éducation sexuelle ?
Bah nous on préconise dès la maternelle, c'est ce que les pays qui ont traversé ça. L'idée et l'objectif, c'est d'accompagner l'enfant pour qu'à 5-6 ans, il soit très à l'aise avec la notion de consentement. De se dire, dans les compétences entre guillemets dites de base, et il devrait, et on préconise qu'il y ait le consentement pour justement éviter tout risque par la suite, ainsi de suite. Donc pour arriver à cette notion-là le plus tôt possible, il faut évidemment, c'est avec des ateliers, avec de la formation, hein, c'est pas du tout justement une approche physiologique, reproductive de la sexualité, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas de faire avec mon corps, à montrer, à faire avec les autres. Il y a beaucoup de chercheurs en plus en France qui sont très spécialisés dans le domaine. On a auditionné nous des dizaines d'heures de chercheurs qui montrent bien tous les aspects. Et je voulais rappeler que, sans oublier, et d'un cas plus global, l'école est un endroit très sexiste en termes de répartition du temps de parole. Les garçons ont 70% du temps de parole, la cour est occupée à 90% par les garçons, 90% des enseignants du primaire sont des enseignantes. Donc on est vraiment dans un environnement sur lequel la question de l'égalité au sens large doit beaucoup progresser.
Alors, Gaëlle Le Boeck, c'est intéressant parce qu'on est avec Jean-Michel qui est prof à Marseille et vous disiez tout à l'heure, Gaëlle Le Boeck, voilà, les profs ont très envie de faire ces cours, mais c'est pas votre cas, hein, je crois, Jean-Michel, bonjour.
C'est pas mon cas, c'est comme le reste, quoi, je veux dire, il y en a assez de charger la mule sur l'école. Je veux dire, ces enfants dont on parle, c'est pas des générations spontanées, ils viennent, ils ont des parents qui devraient déjà les éduquer à Internet, qui devraient déjà les éduquer à l'écologie, qui devraient déjà les éduquer à la politesse, à la civilité, s'ils le font pas, je veux dire, en quoi c'est à l'école? Ou alors, il faut prendre ses enfants,
puisque les parents sont...
Attendez, il y a une loi, on est d'accord. Alors, je veux dire, l'école, au départ, il y a une gros leurre, c'est pas l'éducation nationale, c'est l'instruction nationale, d'accord. On est là pour instruire, pour apporter des savoirs. On est déjà classé en queue de peloton des pays européens et voire des pays mondiaux au niveau des savoirs. Je fais passer des CM1 et des CM2 illettrés en classe supérieure, parce que tu comprends, on ne fait redoubler personne. D'accord. On vient surajouter sur un temps où il faut encore rajouter une demi-heure de sport tous les jours. Il faut concerter, il faut gérer les émotions de ces pauvres enfants. Écoutez, je pense que leur apprendre.
Alors attendez, Jean-Michel, on vous entend très très mal. Il va falloir que Jean-Michel. Alors là, je pense que ça a coupé, mais je comprends votre propos. On va faire réagir Gaëlle Le Boeck. On essaiera de vous reprendre après parce que là, on vous entend mal. Gaëlle Le Boeck, voilà, c'est ce que dit Jean-Michel. Là, on est en train de charger la mule.
Alors, moi, je pense qu'on prend le problème du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on regarde les conséquences. Évidemment, les conséquences, on a l'impression que c'est charger la mule. Je veux juste parler de base. Si vous comparez un enfant finlandais à un enfant français à 15 ans, l'enfant finlandais qui a beaucoup des meilleurs résultats, parce qu'il a été mis dans les bonnes conditions pour apprendre, a eu 1500 heures, c'est-à-dire près de 2 ans de cours de moins qu'un français, avec des meilleurs résultats. Donc on se pose la question juste de la conséquence et pas de la cause. Comment on fait cours ? Comment on est dans un environnement où on peut bien apprendre ? Et la question du respect d'autrui, la question des compétences psychosociales sont fondamentales. Les chercheurs montrent par A plus B que vous pouvez pas bien apprendre si vous êtes pas, vous exprimez pas vos émotions. Donc quand j'entends un enseignant dire « Oh, maintenant, il faudrait qu'on travaille sur les émotions », ça me fait mal.
Oui, mais peut-être que la plupart des enseignants, en tout cas, moi, c'est la question que je me pose, ne sont pas, en tout cas, formés pour faire ces cours d'éducation sexuelle.
C'est une recommandation du rapport.
Voilà, Jean-Michel, il n'a pas envie de les faire. Donc, à un moment, s'il n'a pas envie de les faire, et qu'on lui donne, la charge de l'éducation sexuelle de nos enfants, il ne va pas être bon parce qu'il n'a pas envie. Et je ne suis pas sûre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Gaëlle Le Boeck. Moi, je ne pense pas que la majorité des profs soient aptes à faire ce genre de cours parce qu'il faut vraiment avoir un tact incroyable. Encore une fois, il y a diverses formes de sexualité. Tout le monde n'a pas la même sexualité. Et donc, comment on fait pour parler à un enfant qui se cherche, un autre qui lui est sûr de sa sexualité? Un qui a déjà fait l'amour, un qui ne l'a pas encore fait. Enfin, je veux dire, c'est des thèmes extrêmement difficiles. Est-ce que le prof de sciences nat, est la meilleure personne pour ça? Je suis pas sûre. Peut-être qu'il faut des intervenants extérieurs.
Mais j'ai pas dit qu'il fallait pas d'intervenants extérieurs. Je dis juste qu'on doit se placer dans un continuum. Et c'est pas à 3 ou à 4 ans qu'on va parler de la reproduction. Comment on parle de la confiance en soi? Comment on parle du respect d'autrui? Et puis on a des deux, on monte en puissance. C'est quoi le consentement? Qu'est-ce qu'on a le droit? Et voilà, et en année 3, comment on crée un vrai continuum? pour que, oui, à l'adolescence, on soit très à l'aise et que les profs aussi soient à l'aise. Moi, le but, c'est aucunement de forcer les profs, c'est de les accompagner, les former et en initial et en continu pour qu'ils soient à l'aise. Puisque si on dit c'est aux parents de tout faire, bah, pourquoi les parents feraient pas les maths non plus, feraient pas autre chose? Non, je pense que l'école, elle est là pour former. Évidemment, il y a des savoirs fondamentaux, mais il y a aussi des savoirs vivre. Et l'école, elle est là pour ça. En particulier, l'école de la République, elle est là pour diminuer les inégalités, si possible, les supprimer. Et je crois que cette éducation-là, sur laquelle le ministre est revenu, est une très, très bonne orientation.
Rémi, vous avez plein de messages sur l'application RMC.
Très nombreux messages, celui de Sébastien, par exemple, qui nous dit, ça revient à ce qu'on disait à l'instant, bonjour Estelle, il faut arrêter de demander aux profs de faire le travail des parents. Les parents sont vraiment des assistés. Bon, ça, c'est l'opinion de Sébastien. Et il y a aussi l'opinion de Tom qui nous dit, bonjour, quand votre fille rentre à la maison après 2 semaines de 6e et qu'elle vous parle du site pornographique Jackie Michel, c'est à se demander si, effectivement, il n'y a pas de l'éducation sexuelle à faire à l'école.
Eh bien, si, bon, en tout cas, il y a 3 heures obligatoires et qui sont malheureusement pas faites. Merci en tout cas, Gaël Le Bouec, d'avoir été notre invité sur ce débat. C'était extrêmement clair tout ce que vous nous avez dit sur cette éducation sexuelle à l'école. Alors justement, éducation sexuelle renforcée à l'école, c'est notre sondage Twitter. Êtes-vous pour, êtes-vous contre?
C'est le pour qui l'emporte. 59% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Ah, c'est quand même une bonne majorité. Dans un instant, Amélie Rosic, RMC s'engage pour vous. Et l'appel désespéré d'une assistante maternelle, elle n'est plus payée par les parents de l'enfant qu'elle garde. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et dans cette dernière partie, on vous aide. Enfin, c'est Amélie Rosic qui vous aide. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Amélie, aujourd'hui, vous avez répondu à l'appel à l'aide d'une assistante maternelle.
Absolument. Alexandra, elle vit près de Montpellier. En 2019, après des années à accompagner des élèves dans une école maternelle en tant qu'ALSEM, vous savez, elle décide de devenir cette fois-ci assistante maternelle agréée, donc d'accueillir à son domicile des enfants. Et elle accueille des enfants de 3 familles différentes. Elle garde notamment un petit garçon de 2 ans, très mignon, 5 jours par semaine, avec lequel tout se passe bien, mais très vite, les parents ne la payent plus.
Il y avait toujours des excuses bidons. Au niveau des salaires, toujours des promesses de me payer, mais qui n'étaient jamais tenues. Quand j'appelais, ça me raccrochait au nez. Quand j'allais les voir, ça fuyait. Ou alors je me faisais insulter. Du coup, j'étais assistante maternelle peu de temps, au final 4 mois. Ça s'est très bien passé avec les autres familles, mais j'ai dû démissionner par manque de soutien, par découragement suite aux impayés. J'ai arrêté la profession définitivement. Je ne veux plus jamais en entendre parler parce que ça m'a dégoûtée à vie.
J'ai une question qui peut paraître horrible, mais pourquoi elle n'a pas viré l'enfant?
Déjà parce que quand même les assistantes maternelles sont attachées aux enfants qu'elles gardent, surtout parce qu'à partir du moment où elle rompt le contrat de travail, derrière elle a peur de ne jamais réussir à récupérer les salaires qu'on lui doit.
Oui, d'accord, c'est un cercle vicieux.
Okay. Exactement. Donc, 3 ans plus tard, Alexandra n'a pas touché 1 centime sur les 4000 euros de salaire non perçu. Les prud'hommes lui ont donné raison, mais les parents sont insolvables, impossible de récupérer l'argent. Voilà.
Mais alors Amélie, vous avez en plus découvert que le cas d'Alexandra est révélateur d'un problème de fond en fait.
Absolument, en discutant avec d'autres assistantes maternelles, notre auditrice s'aperçoit qu'elle n'est pas seule. Il y a 8 mois, elle crée sur Facebook un collectif qu'elle appelle Asmat Impayé Révolté, qui réunit déjà plus de 1700 personnes. Oui. Nous y avons publié un appel à témoignages, tout simple, pour savoir est-ce que c'est votre situation. En moins de 2 semaines, plus de 70 personnes nous ont répondu, donc c'est dire le phénomène. Elles dénoncent toutes précisément la même chose. Des parents qui ne payent pas les salaires, mais qui continuent en plus de percevoir les aides de la CAF, et des salaires impossibles à récupérer malgré des dossiers gagnés au prud'homme.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider toutes ces femmes, Amélie?
Alors malheureusement, pour Alexandra et les assistantes maternelles qui sont déjà flouées, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Vous l'avez compris, même la justice n'y arrive pas, parce qu'elles gagnent leur procès au prud'homme, mais que derrière, elles n'arrivent pas à récupérer leur argent.
Si toutes les allocations, c'est qu'ils ont de l'argent.
Exactement, sauf que ça ne communique pas, c'est toujours pareil entre la CAF, l'URSSAF, voilà, les gens ne communiquent pas, c'est bien le problème d'ailleurs. C'est pour les autres qu'on a essayé de faire quelque chose, de remuer un petit peu tout ça pour toutes les assistantes maternelles qui pourraient un jour se retrouver dans la même situation qu'Alexandra. Donc on est allé éplucher à l'Assemblée nationale les questions qui avaient été posées, on a trouvé que 5 parlementaires avaient bien posé des questions écrites au gouvernement précisément sur ce point et ce depuis 2018.
Donc ça date pas
nouveau. Exactement, c'est pas nouveau. Et on les a tous recontactés et parmi eux, il y a Henri Cabanel, il est sénateur de l'Hérault. Il a décidé, après notre appel, de reprendre le dossier en main et il posera une question orale, cette fois-ci au ministre des Solidarités, le 25 octobre prochain. Mais surtout, et c'est une information RMC, il va déposer un amendement au projet de PLFSS, de loi de finances de la sécurité sociale. Il veut en fait tout simplement changer le système. Aujourd'hui, ce sont les parents qui payent directement les assistantes maternelles et par ailleurs, il le déclare sur un un site, page emploi, puis ils touchent les aides de la CAF. Bon, bah, l'idée du sénateur, c'est que les parents ne paieraient plus directement les assistantes maternelles, mais via l'URSSAF.
Ah, très bien.
Et ça. Comme ça, l'organisme deviendrait ainsi garant des salaires. Écoutez.
L'État et beaucoup de formations politiques mettent en avant donc la valeur travail. Voilà. Mais si on ne défend pas les travailleurs qui sont pas payés, ça va pas le faire. Donc il faut que l'État assume ses responsabilités et fasse en sorte donc d'indemniser ces assistantes maternelles qui n'ont pas été payées parce qu'en plus il y a eu fraude à la CAF.
Nous avons sollicité aussi, évidemment, le ministère des Solidarités, qui n'est pas sans connaître le dossier. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, connaissent très bien le dossier. Le sujet est inscrit au programme de travail du comité Petite Enfance, nous dit-on. Par ailleurs, le gouvernement a d'ailleurs prévu de mettre sur la table une réforme de la CMG. La CMG, vous savez, c'est le complément de mode de garde. Justement, si vous faites appel à une assistante maternelle, c'est une aide versée par la CAF lorsqu'on emploie une ASMAT, comme on dit. Le comité Petite Enfance doit justement se réunir, d'ailleurs, demain, en présence du ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, et puis l'amendement au PLFSS qui va être déposé par le sénateur Cabanel sera discuté à l'Assemblée nationale le mois prochain, donc on espère qu'il sera adopté, parce qu'a priori il n'y a pas beaucoup de clivage politique autour de cette question, me semble-t-il.
S'il y a une loi, grâce à vous, à Meilleur Ozic, mais alors là on passe encore un échelon.
La loi Ozic, bien sûr.
Alors on aide les gens, hein, bien sûr, sur RMC, on aide tous les auditeurs. Hier on a essayé d'aider une dame qui a été flouée par l'application SNCF Connect. On en est où? Est-ce que la SNCF va rembourser, Amélie?
Pour l'instant, la SNCF ne va pas rembourser. Pas on a eu des contacts après la chronique hier. La SNCF est très vexée. Très vexée que nous ayons qualifié l'appli SNCF Connect d'absurde. Nous expliquant que pas du tout, c'était très facile de changer les voyageurs. En tout cas, à titre personnel, je vais parler simplement pour moi, je ne trouve pas ça ni spécialement facile, ni spécialement intuitif. Nous les appelons à nouveau à changer leur application pour
Et nous allons les rappeler ce soir pour ces 290 euros qu'ils ont indûment perçus pour notre auditrice qui nous a appelé hier. On ne les lâchera pas. Amélie Rosier, c'est vrai qu'elle n'est pas très bien faite, cette application SNCF.
Elle est très compliquée.
Et puis, il n'y a pas que nous qui...
Ou alors, on n'est pas suffisamment intelligent selon les critères de la SNCF.
Enfin, il n'y a pas de quoi se vexer non plus. Il suffit de payer, c'est tout. Bon. Et après, on en dira du bien. Nous allons passer aux immanquables. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, ce sera juste après cette courte pause. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ce sont les immanquables. Et c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence tout de suite les immanquables avec le plan du jour, Rémi Barré.
Le plan du jour, le gouvernement passe la vitesse supérieure pour développer l'usage du vélo en France. Un plan doté de 250 millions d'euros va être annoncé par Elisabeth Borne pour 2023. C'est la moitié de l'enveloppe prévue normalement d'ici à 2025. On accélère donc, l'argent sera principalement dédié aux pistes cyclables, des pistes sécurisées, mais aussi au stationnement des vélos.
Fatima Benomar, vous êtes notre cycliste sur ce plateau. Il va dans le bon sens ce plan?
Quoi qu'il en soit, si on se projette dans le plus loin...
Tu m'as pas répondu oui.
Hein?
Tu pourrais me répondre oui.
Oui. Quoi qu'il en soit, si on se...
Avec le gouvernement.
Non, pas du tout. Si on se projette dans l'avenir, j'espère bien qu'effectivement, pour tout un tas de raisons et de préservation de l'environnement et même de santé, etc., il y aura un encouragement à des villes beaucoup plus cyclistes. Voilà, donc
là, c'est
sûr.
On
donc le gouvernement va dans le bon sens.
Hein, on passe de 50 millions par an à 250 millions sur cette année. Donc, il y a bien un progrès. C'est pas...
je pense que vraiment...
C'est pas une mauvaise chose de dire que le gouvernement, de temps en temps, fait des choses bien.
C'est toute la problématique par rapport au plan, à la planification écologique, c'est que nous on pense que par rapport au temps qui nous reste, il faut une volonté politique plus marquée. Et donc,
de 50 à 250 millions, c'est bien marqué.
Mais malheureusement. Alors,
j'ai une question. Est-ce que dans des 250 millions, il y a de l'éducation, du code de la route?
J'espère.
Non, parce que les cyclistes, sur un truc tout con, c'est que quand c'est rouge, ta vélo, tu t'arrêtes. Mais c'est un truc que les cyclistes ne comprennent pas. Donc, ce serait bien qu'il y ait aussi un petit peu de code de la route dans la formation des cyclistes.
Mais juste par rapport à ce que je voulais dire, c'est que c'est pas les vélos qui vont sauver les planètes. Voilà. C'est-à-dire que c'est une partie du problème. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse diversion sur, des enjeux qui sont...
Investir sur le nucléaire, par exemple.
Bien sûr.
ça c'est d'autres choses. La remontrance du jour.
Alain Béral, président France de la marque de fast-food KFC, partenaire officiel de la Fédération française de football, n'a pas du tout apprécié le refus de Kylian Mbappé de participer à des opérations marketing. Dans une interview publiée sur le site Sport Business Club, il explique: c'est un problème entre la Fédération et Kylian Mbappé, pas le nôtre. Nous avons payé pour quelque chose de clair. S'il le faut, nous ferons valoir nos droits. Il ajoute que selon lui, Kylian Mbappé est en pleine crise de jeunesse et fait un caprice.
Alors, il faut expliquer qu'en fait, les sponsors de l'équipe de France payent très cher pour avoir une séance photo avec cinq joueurs qu'ils choisissent. Alors, la plupart du temps, ils prennent toujours les mêmes. Donc, ils vont prendre Mbappé, Pogba, Griezmann, N'Golo Kanté et peut-être Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France. Et là, il se retrouve sans Mbappé. Donc, c'est sûr qu'il a payé très cher pour avoir Mbappé, qui est un peu l'idole des jeunes. Il se retrouve sans Mbappé. Ça l'agace. Enfin, de là à dire que c'est un caprice de star, c'est un seul.
Moi, je n'ai jamais mangé chez KFC, je n'irai jamais, Dieu m'en préserve. Mais il a tout à fait raison. Il y a un contrat avec la fédération, c'est un problème entre la fédération et Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé a gagné. Hein. La fédération
a gagné son bras de fer,
puisque maintenant, les joueurs vont avoir un droit de regard sur les sponsors de l'équipe de France. Oui. Bon, dans ce cas-là, qu'ils renoncent aux primes, etc., puisque les primes que touchent les joueurs en équipe de France sont aussi financées par les sponsors. Donc, je n'aime pas KFC, mais le président de KFC a tout à fait raison. Il a payé pour un service qui ne lui est pas rendu.
C'est sûr qu'en tout cas, un droit de regard sur sur ce pourquoi on fait de la pub, je trouve quand même que c'est intéressant et qu'il pourrait y avoir quand même, par rapport au premier intéressé, par exemple moi, qu'on me dise de faire la pub pour quelque chose qui est par exemple l'incarnation de la malbouffe ou autre chose, c'est vrai que j'aimerais bien avoir peut-être un panel de choix. Enfin, c'est pas anodin. Quand on utilise sa personne pour faire le sponsor d'une marque, eh ben, je pense qu'on a quand même notre mot à dire.
Oui, alors tout le monde a dit que voilà, le geste de Kylian Mbappé était beau, que ça allait être suivi par d'autres joueurs. Le seul truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ses sponsors financent la Fédé, financent le football, mais qu'il y a 5% du budget de la Fédé qui est reversé au sport amateur. On sait que le foot est le sport numéro 1 en France. Et si jamais les marques ne veulent plus sponsoriser l'équipe de France, ça va faire un budget moindre également pour le sport amateur, les autres sports
très
amateurs.
Très bien dit, Estelle. C'est un problème purement juridique et contractuel. Contrat qui court jusqu'à maintenant, il y a des obligations. Si effectivement la Fédé a cédé et que maintenant le prochain contrat, il y aura un droit de regard, ok, mais sur ce qui est là, l'obligation, il a raison, le patron de KFC. Après, moi je veux bien que Kylian Mbappé n'ait pas envie de faire la pub de KFC, mais il faudrait peut-être aussi qu'il donne aussi. Oui, il peut aussi, il pourrait avoir quelques mots aussi sur la Coupe du Monde au Qatar, sur les droits de l'homme au Qatar.
Mais il fait ce qu'il veut.
Mais
après, il a le droit de dire j'ai pas envie de faire de la pub pour telle marque de bouffe, pour telle marque. Enfin voilà. Et quelque part, on peut pas reprocher aux footballeurs de ne jamais rien dire. Et tout d'un coup, quand ils disent quelque chose, quand ils prennent position,
des positions fortes. Parce qu'évidemment, il va rien dire contre le PSG, contre le Qatar.
Qu'est-ce qu'il y a derrière dans les négociations que les sponsors de l'équipe de France n'entrent pas en conflit avec les sponsors personnels. Oui. Donc il y a quand même une histoire d'argent derrière.
C'est sûr que si tu es sponsorisé, c'est pas le cas d'Mbappé, mais si tu es un joueur, tu es sponsorisé par McDo et on te demande derrière de faire de la pub pour Quick avec le maillot de l'équipe de France, t'es un peu embêté. Et donc ça pose beaucoup de questions. Ouais. Aujourd'hui, ça n'en posait pas il y a 30 ans, mais ça en pose aujourd'hui.
Et preuve quand même du poids très lourd que pèse Kylian Mbappé. À l'instant, le groupe KFC vient à travers un communiqué de faire part de son désaccord et de son regret des propos tenus par son président.
Ah lui, il va se faire virer. Il a bien fait.
C'est énorme. C'est-à-dire que le pouvoir du football et d'un personnage dans le football est incroyable. Ouais. Mais avoir autant de pouvoir à cet âge-là, pouvoir sur le PSG, pouvoir sur l'équipe de France, ça commence à me faire un peu peur.
En tout cas, tout à l'heure, Estelle, tu as dit, ah mon Dieu, si les sponsors ne sont plus respectés, il y aura, on va dire, tout un effondrement d'un système économique vertueux. Moi, je pense que tout simplement, ça peut aussi servir de rapport de force. C'est-à-dire que si des marques ont des mauvaises images sur quoi que ce soit, sur leur action, sur leur contenu, sur leur marchandise, eh ben de fait, elles pourront avoir aussi cette pression pour améliorer leur image et faire peut-être des vrais gestes quant à ce
qu'ils sont. Ils améliorent leur image justement en sponsorisant des footballeurs.
Et notamment qu'ils viennent.
C'est le poulet qui se mord la queue pour parler.
Non, je parle du contenu justement de ce qu'ils présentent, en fait, de ce qu'ils proposent.
Les fermetures du jour.
6 des 7 guichets grandes lignes de la gare de Nice pourraient fermer prochainement et ce pourrait être la même chose dans de nombreux autres endroits en France. La SNCF explique vouloir aller vers plus de numérique pour s'adapter aux nouveaux usages des clients. Selon l'entreprise, moins de 20% des billets ont été achetés au guichet en 2020. La réduction des ventes au guichet entraîne donc, selon elle, une adaptation nécessaire de la part de la SNCF, notamment pour garantir sa performance économique.
C'est logique, Thierry Moreau.
Alors, c'est le sens du vent. Est-ce qu'on est d'accord avec le sens du vent ? Il y a une vraie problématique. N'oubliez pas qu'il y a un problème d'électronisme en France, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal face à un ordinateur, donc face à une borne SNCF, c'est la même chose. Moi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps dans une gare où une personne âgée avait du mal. Alors, quelqu'un est venu l'aider, mais ça prend du temps, etc., etc. Évidemment que c'est pour faire des économies à la SNCF, mais peut-être que les économies, on pourrait peut-être les faire ailleurs.
Ouais, mais moins de 20% des billets achetés au guichet. Donc, à un moment, tu vas pas garder des guichets.
C'est-à-dire que la défaite... Non, mais il faut conserver des guichets. Alors là, il n'y en a plus qu'un.
Bien sûr.
Mais est-ce que ça suffit? Je ne connais pas le trafic. Faudrait voir
si
le trafic.
Si ça ne suffit pas, ils en ouvriront un deuxième.
Mais en fait, quand tu dis qu'il y a la rupture entre guillemets numérique, la fracture numérique, pardon, c'est-à-dire que c'est pas que ça. C'est-à-dire même des personnes qui sont à l'aise avec le numérique, la dématérialisation, elle enlève le contact humain, ce qui fait que ça, c'est plus confort, par exemple, pour commander vite fait. Mais par contre, quand tu as un dysfonctionnement et que tu demandes tes droits, là, ça devient horrible. Moi, par exemple, moi, c'était Pôle emploi. Mais Pôle emploi, il y a eu un dysfonctionnement de leur part, mais c'est la croix et la bannière pour avoir des interlocuteurs et faire respecter mes droits. La CAF, c'est la même chose. Donc, ça ne va pas que pénaliser les personnes qui ont du mal avec le numérique. Non, à ce moment-là, tu diras, c'est pas grave, on va former les nouvelles générations. C'est vraiment le fait d'avoir des interlocuteurs humains, ce que tu peux actionner quand tu es bafoué dans tes droits.
Oui, mais tu peux peut-être prendre 6 des 7 guichets vont être fermés, donc tu gardes un guichet et tu peux peut-être, sur ces 6 guichets fermés, garder un contrôleur, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une personne en tout cas qui est chargée d'aider les gens qui ont guichet.
C'est souvent le cas.
Exactement.
Oui, mais donc, dans les aéroports, par exemple, c'est le cas.
Mais heureusement, parce que des fois, c'est très compliqué, notamment pour les personnes âgées.
Pour rebondir sur ce que disait Fatima, j'ai un de mes enfants qui a besoin de se faire refaire sa carte vitale. On lui dit de le faire par Internet, mais il y a un blocage sur Internet, ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans détails.
Oui,
mais pour avoir une personne humaine qui te règle le problème, c'est très compliqué. Donc ça ne concerne pas effectivement.
Il faut appeler le samedi matin, il y a moins de monde. Je parle d'expérience.
Ouais, entre 8h et 8h30.
Exactement, il y a moins de monde.
8h et 8h06.
Voilà, c'est ça. Fred Hermel.
Oui, mais si l'application marche.
C'est-à-dire l'application SNCF.
On revient à ce qu'on disait hier avec.
Non, mais l'application, elle marche, mais elle n'est pas intuitive.
Elle n'est pas intuitive. Donc oui, malheureusement, c'est le sens de l'histoire. Je préfère qu'on fasse des économies sur ce genre de choses et qu'on conserve des petites lignes, par exemple, pas rentables, justement pour fournir le service public. Mais c'est évident que c'est logique, s'il y a plus que 20% des billets qui sont vendus en guichet, c'est une logique de fermer. Mais attention, que ça aille au service public.
Là, on enlève plus de 80%,
oui,
donc on n'en garde pas 20%.
Oui.
Tout à fait. La gratuité du jour.
Le ministre de la Santé, François Braun, annonce la gratuité de la contraception d'urgence, la pilule du lendemain, et la gratuité du dépistage des infections sexuellement transmissibles. Jusqu'à présent, la pilule du lendemain était seulement disponible gratuitement pour les mineurs et pour les étudiantes majeures. Et puis, pour le dépistage, c'était gratuit, mais seulement pour le VIH.
Et ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle, Fatima.
Oui, il y a tout un coût contraceptionnel féminin qui est effectivement souvent assez lourd parce que les hommes, ils vont avoir des dépenses liées aux préservatifs. Les femmes, c'est la contraception et c'est si jamais des garçons sont embêtants et ne veulent absolument pas utiliser le préservatif ou alors s'ils craquent, etc., elles doivent en plus aller acheter ça. C'est souvent très pénible. On va avoir nos règles 3 fois par mois. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des règles ici. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de pénibilité là-dessus. Donc, au moins qu'elles puissent avoir accès gratuitement à cette pilule du lendemain. Et évidemment, qu'on puisse avoir aussi un accès à la contraception parce qu'il ne faut pas non plus que cette pilule du lendemain soit un moyen de contraception. C'est d'ailleurs très, très pénible d'y avoir recours. Et c'est vrai qu'il y a aussi un sujet, en fait, sur la diversité, en fait, des moyens de contraception. En France, on est très, très axé sur la pilule, alors qu'elle a beaucoup de désavantages. Il faut y penser. Il y a beaucoup d'inconvénients, baisse de la libido, dépression, etc. Donc, dans d'autres pays, on voit que les filles ont plus connaissance et plus accès à divers moyens de contraception féminine.
Ce sera la fin d'Estelle Midi pour aujourd'hui.